Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Faut-il que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ? Autrement dit, faut-il pousser son imaginaire toujours plus loin pour espérer obtenir des réponses aux questionnements essentiels ? Faut-il chercher entre le rêve et la réalité pour savoir dans quel monde nous sommes ou nous croyons être ? Le monde de l'autre, le monde des autres, le monde réel, le monde imaginaire, le monde imaginé, le monde ressenti, le monde souhaité. Et s'il fallait aller au-delà de l'horizon, au-delà de ses limites, et s'il fallait accepter de s'échapper entièrement de soi-même pour essayer de comprendre, de libérer notre imaginaire pour appréhender le monde. C'est ce que nous propose Stéphanie Lima dans son recueil de nouvelles « Les échappées imaginaires » paru aux éditions Terra Rossa, et premier prix dans la catégorie Nouvelle décernée en 2024 par l'Académie des Livres de Toulouse. Bonjour Stéphanie Lima.
Bonjour Philippe.
Bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue Stéphanie à Parole d'auteur. Alors je voudrais d'abord vous poser une première question. Vivons-nous vraiment dans un monde absurde et vivons-nous dans un monde réel ?
C'est une question complexe qui mérite une grande réflexion.
En tout cas, c'est une question qui peut venir à la suite de la lecture de votre livre. Hein, c'est pour ça que je vous la pose. Et ça met le lecteur face au contexte général de votre ouvrage, qui est finalement, mais pas seulement, un grand questionnement sur le monde, le sens du monde et toutes les réflexions qui peuvent être menées sur le sujet de l'absurde, notamment. Alors, Stéphanie, vous pourriez nous dire ce que vous faites dans la vie, à part écrire ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis juriste d'entreprise et je suis aussi donc médiateur professionnel, formé dans une école spécifique qui est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui s'intéresse particulièrement aux procédés issus des neurosciences, ce qui m'a amené à cheminer notamment sur les expériences de pensée et à m'interroger plus qu'avant sur le monde de l'imaginaire.
Alors en termes d'écriture, je crois que c'est votre premier ouvrage.
Oui, c'est mon premier ouvrage, effectivement. J'ai été amenée à fréquenter l'Académie des Livres de Toulouse, où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, amenée donc à l'Académie par Monique Ruffier, une autre auteure de l'Académie que vous connaissez, qui était ma professeure de français et d'anglais au lycée Bellevue, lorsque j'étais jeune. Et c'est elle qui m'a, la première fois, invitée à participer. J'ai été très rapidement intéressée pour devenir un membre du jury. Et lors de la deuxième session, je me suis posé la question de savoir si j'étais réellement légitime en tant que lectrice et non pas auteur. Donc, je me suis lancée dans l'écriture. Mais c'était une envie qui couvait en moi depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas ? C'était assez expérimental, je ne m'attendais pas à recevoir le premier prix et je ne m'attendais pas non plus à ce que petit groupe de personnes, de plus en plus nombreuses, me disent que l'ouvrage les avait fortement intéressés. Ça a été une vraie surprise pour moi.
Et je fais partie de ce groupe de personnes, je peux vous le dire. Alors, c'est le premier livre que vous écrivez. On comprend très rapidement que ça ne sera pas le dernier non plus, puisque vous avez prévu une suite pour les échappées imaginaires, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, pour que les auditeurs aient une idée du livre, de l'essence même du livre, je recite cette phrase de Gaston Bachelard: « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ». Alors c'est une phrase, une citation de Gaston Bachelard que vous mettez en avant et qui, je trouve, est parfaitement pertinente lorsqu'on a lu votre livre, parce qu'effectivement on se dit: quelle imagination, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop ?
Alors effectivement, c'est mon monde intérieur pétrie de ces questionnements, notamment sur l'absurde, l'imaginaire et la frontière entre le réel et cet imaginaire et ces expériences de pensée que l'on peut faire notamment en physique, et voire en astrophysique, puisque Gaston Bachelard est considéré comme un philosophe des sciences. Donc effectivement, moi-même pétrie de toutes ces questions, mais aussi parce que j'ai été formée à la littérature par les auteurs russes, que ce soit Dostoïevski, Mikhaïl Bulgakov, Kafka, qui sont mes auteurs références et qui abordent toutes ces questions où effectivement s'entrecroisent des données totalement absurdes, et surtout chez Kafka, sur une vision du monde qui finalement c'est pas trop à quoi ça sert, à quoi bon, et une vision très matérialiste où on se dit qu'effectivement si l'homme, l'être humain ne fait pas l'effort de l'expérience de pensée, il ne peut s'échapper en tout cas d'un matérialisme exacerbé qui pourrait ne pas avoir de sens. Donc ce sont des questionnements philosophiques intérieurs que je porte en moi depuis l'adolescence. Effectivement, en ayant choisi des études de droit, ces questionnements sont restés latents en moi, puisque le droit n'éprouve pas trop ces questionnements. On est quand même dans quelque chose de très codifié, de très rigide, quoique maintenant on parle des mutations juridiques. Mais effectivement, c'est précisément, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'avoir été formée dans cette école de médiation qui est tout à fait différente de ce que peut proposer un enseignement juridique, et donc d'avoir cette ouverture vers les neurosciences qui m'a totalement révélé le fait que cette expérience de pensée sur les chemins de l'imaginaire puisse être quelque chose d'extraordinaire, en tout cas éprouvé pour moi-même et dans la matière de l'écrit.
Ce qui nous prouve par ailleurs qu'il ne faut pas avoir d'a priori, effectivement, parce que il y a un petit paradoxe entre exercer une profession de juriste, de baigner dans le droit au quotidien, et effectivement, j'allais dire, exploser dans l'imaginaire lorsqu'on écrit des livres.
Absolument, absolument. Et puis, on peut aussi faire l'expérience lorsque on est soi-même juriste et qu'on est on aborde notamment l'exercice de la rédaction de conclusions. Parfois, effectivement, on peut aussi laisser s'échapper son imaginaire tout en restant dans le cadre requis. Mais on peut, comme on dit en anglais, si je puis me permettre, tracer sa storytelling, puisque tout après ne sera que question de rhétorique. Donc on peut aussi aborder cet exercice-là par le prisme d'écrire une histoire, quelque chose qui a trait à un scénario.
Alors vous avez choisi la formule des nouvelles.
Oui.
Dans la construction de ce livre, il y a un grand déséquilibre en termes de pages, d'importance, entre la première nouvelle et les autres. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire ?
Pas du tout. Pas du tout, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un exercice expérimental. Je me suis lancée parce que j'étais confortée par le fait que l'Académie soit un cadre amical et bienveillant, et je n'ai pas eu peur de me lancer dans l'écriture parce que je n'ai pas eu peur d'être jugée par des personnes avec qui j'avais tissé des liens d'amitié. Donc je l'ai fait sans y penser. Je portais, je pense, la nouvelle d'Henri depuis assez longtemps. Depuis mes 26-27 ans, où savoir que la nouvelle d'Henri, je l'ai apportée suite à une expérience professionnelle assez pittoresque qui ne s'est pas forcément bien finie. C'était ma première expérience professionnelle et j'avais ce sentiment de l'enfermement dans une boîte. Alors souvent une entreprise, on dit ben, c'est ma boîte, hein. Voilà, on peut rapidement faire le parallèle. Et j'y avais trouvé des situations qui m'apparaissaient profondément et totalement absurdes. Et pour ne pas subir les écueils de cette situation, je me suis réfugiée notamment dans la littérature et j'ai repris mes œuvres de Kafka. Voilà, donc c'est quelque chose que je portais en moi depuis assez longtemps. Et puis, cette nouvelle-là, après, elle est venue s'enrichir de situations que je vis au quotidien. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de percevoir le réel, peut-être, d'une façon assez différente, peut-être des personnes qui m'entourent, et d'essayer de m'en extirper, en tout cas, d'essayer toujours d'y trouver une explication, alors qu'elle soit rationnelle ou pas.
Alors, on y sent très bien, de toute façon, dans cette nouvelle, les égarements, parfois, de l'organisation des grandes entreprises, de toute façon. Au-delà de ça, est-ce que vous avez mis dans l'ordre, vous avez mis dans un certain ordre ces nouvelles? Est-ce que c'est un ordre aléatoire ou est-ce qu'il y avait un fil conducteur dans votre, j'allais dire, mise en page, dans la construction du livre?
Je pense que au départ, je n'y ai pas pensé en tant qu'ordonnancement. Je n'ai pas eu une volonté d'ordonner. Mais je ne pense pas que finalement ça soit si aléatoire que ça, et ça doit certainement correspondre à quelque chose qui est plus enfoui en moi, puisque c'est vrai que moi je suis, en tout cas dans ma petite carrière d'auteur qui a été lancée par ce volume 1, je suis une personne qui écrit vraiment... qui écrit vraiment des choses qui sont très très enfouies au fond de moi et qui sont le reflet de ressentis quasi inconscients parfois. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais je ne pense pas que je puisse devenir, si tant est que je poursuis cette petite carrière d'auteur, je ne pense pas que je puisse devenir un écrivain qui finalement écrit des histoires sur des situations qu'il voit ou de la vie de tous les jours ou comme un peintre naturaliste. Vous voyez, ça n'est pas possible. Hein. Je ne pense pas être faite comme ça. Donc, moi, je suis vraiment pétrie de cette littérature russe. Hein. J'en démords pas, bien que j'aime beaucoup d'autres auteurs hein, et que j'en lise d'autres. Mais c'est vraiment, je pense que ce sera ma marque de fabrique, comme on dit.
Donc, les échappées imaginaires, il y a de l'Ubu, il y a du voilà. Kafka, il y a du gothique,
c'est ça.
Il y a du Bulgakov,
oui.
Apparemment.
Oui.
On sent que, vous en parliez au début de l'émission, vos références littéraires, on sent à la lecture de votre livre que vous êtes presque une cousine de Monsieur K.
C'est ça. Alors, ça, je ne vous contredirai pas.
Donc, six nouvelles qui sont écrites, qui sont rassemblées dans ce recueil. Alors, la première nouvelle, le titre, c'est Henry Broseley, La boîte et le temps. On va parcourir les six, et pour chacune des six, je voudrais simplement que vous me donniez un mot ou une toute petite phrase pour qualifier la nouvelle elle-même, sans forcément que vous la racontiez, mais... La première nouvelle, La boîte et le temps, c'est quoi?
Une expérience de mort imminente.
La seconde s'appelle Des champs d'orge et des trains vers ailleurs. Imaginez fuir.
Géopolitique immédiate.
La troisième s'appelle Chloé attend la pluie. Dystopie sur l'âge d'eau.
Précisément, la dystopie. Quoique.
Quoique. La suivante, c'est De la matière, l'horizon des événements.
Très personnel.
La cinquième, Catharsis, point de la fureur.
Une situation vécue lors d'un événement récent.
Et enfin, la dernière, Tolosa, la légende du voile.
Ma ville rose.
Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir en détail sur ces nouvelles. En attendant, Stéphanie, vous avez invité à cette émission Maxime Le Forestier, que nous allons écouter de suite.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Lima pour son ouvrage « Les échappées imaginaires » paru aux éditions Terra Rosa en 2024. Et nous venons d'écouter Maxime Le Forestier « Être né quelque part ». On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Stéphanie Lima. Ça vous parle, cette chanson ?
Oui, cette chanson me parle surtout sur la donnée du hasard, puisque depuis très longtemps, depuis les débuts de l'adolescence, j'ai toujours été une jeune fille, en tout cas une adolescente, et puis après une jeune adulte en questionnement perpétuel, sur le hasard de la naissance, hasard ou pas, et les différences qui peuvent exister entre les êtres. C'est pas cliché ce que je dis, c'est vraiment un ressenti profond sur cette planète, et je me dis souvent tiens, voilà, moi j'ai beaucoup de chance, je suis née à Toulouse en France, je bénéficie de beaucoup, beaucoup de possibilités. J'évolue dans de bonnes conditions, alors que l'on soit plus ou moins riche par ailleurs, hein, mais dans d'autres pays, la naissance, si elle est liée à un hasard, elle est quand même les prémices d'une vie compliquée, voire d'une vie douloureuse. Et ce qui m'a amenée par ailleurs à m'ouvrir sur des chemins plus spirituels. Voilà, donc essayer de m'intéresser à la religion. Donc ce que je ne faisais pas forcément plus jeune, mais ce sont des questions auxquelles je me suis intéressée vers l'âge de 40 ans. J'en ai un petit peu plus de 50 aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui m'a amenée à passer très récemment un diplôme de droit, donc lié à la religion, en droit des religions, ce qui, je pense, veut tout dire, effectivement, sur ces chemins donc, de la spiritualité, ce chemin auquel j'ai voulu allier le questionnement juridique aussi. Donc, on s'échappe un petit peu moins, mais pour bien comprendre comment tout cela était façonné. Moi, je suis une personne en perpétuel questionnement. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans que je m'interroge profondément sur l'existence, sur le sens des choses.
Alors, j'allais dire que c'est contagieux pour le lecteur, ce questionnement. Alors, le hasard, la spiritualité, est-ce qu'on peut dire que c'est un des points communs de ces nouvelles ?
Oui, c'est un des points communs, puisque j'ai abordé ce recueil par le prisme de la philosophie des sciences, puisque Gaston Bachelard est référencé tel quel. Alors, on peut, sans prétention aucune, bien sûr, penser à Einstein, on peut penser à des grands physiciens qui s'interrogeaient eux-mêmes sur le hasard et sur le lien du hasard et de Dieu. Je pense que vraiment le fondement, si on doit aller au tréfonds de ces nouvelles, c'est un questionnement aussi sur Dieu.
Alors, dans ces nouvelles, il y a un point commun, et qui est d'ailleurs caractéristique des nouvelles, c'est il y a, on commence par un exposé du contexte, naturellement. Et là, dans toutes les nouvelles, il est parfois difficile, à la lecture de ce contexte, de savoir pour le lecteur où on est. C'est quelque chose de volontaire ?
Oui, c'est quelque chose de volontaire, puisque si l'on y réfléchit bien, tous les matins, en se levant ou même en se couchant, on peut soi-même s'interroger sur où on est. Une planète, une galaxie, un cosmos, un univers. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on est précisément ? On peut aussi s'interroger. Alors après, il faut garder aussi les pieds sur terre, parce qu'il y a de quoi devenir perdre la tête quelque part si on s'interroge de trop. Mais c'est aussi... C'est exactement ça, c'est une interrogation profonde sur l'existence, l'homme sur une planète, l'homme dans une galaxie, l'homme dans l'univers.
Alors, une question générale qui concerne toutes les nouvelles, comment procédez-vous pour choisir les noms et les prénoms ? Comment ça se passe ?
Alors, Henri, ça m'est venu parce que... mon grand-père est issu d'une famille de bergers en vallée d'Aspe, hein, col du Somport, hein, dans un petit village qui s'appelle Saint-Yguin, qui est certainement l'endroit que je préfère au monde. Et lorsqu'on ouvre la fenêtre, on visualise une roche sur laquelle on peut assez facilement discerner le profil d'Henri IV. Sachant qu'il était roi de Navarre et installé au château de Pau, voilà, c'est une image qui m'est venue parce que c'était une image confortable, c'est une image qui me conforte, qui m'apporte de bonnes émotions. Et donc le prénom Henri est venu naturellement de là. Alors il n'y a pas d'autre lien que celui-ci, puisque finalement, oui, Henri Bromsley n'a pas grand-chose à voir avec Henri IV.
Mais c'est toujours intéressant de voir le cheminement pour le choix des noms et des prénoms de personnages. Donc Henri... Henri, c'est un monsieur particulier, c'est un monsieur pour lequel, au fur et à mesure de la lecture, on éprouve beaucoup d'attachement. Et ce monsieur, il est en questionnement, il n'est pas très à l'aise, il essaye de vérifier beaucoup de choses, et il essaye de vérifier, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, où il est. Et ce questionnement sur où suis-je, c'est aussi le questionnement suis-je vivant ?
C'est exactement ça. C'est le questionnement d'une personne qui évolue entre une matérialité froide, celle certainement de nos existences, qui fait que nous devons travailler, gagner nos vies, payer des factures, et la poésie du monde qui n'a rien à voir. Donc Henri, c'est un personnage qui est à mi-chemin entre ces deux mondes, donc comme je le décris, qui subit la pesanteur, mais qui préférait certainement voler, mais qui se fait violence et qui va néanmoins chercher un travail parce que il est grand temps qu'il en trouve un. Donc c'est une allégorie, je pense, sur... c'est une allégorie, puisque moi qui l'ai écrit, mais effectivement, comme je l'ai écrit un peu, pas en pilotage automatique, mais vraiment avec un élan. J'ai écrit ce recueil de nouvelles très rapidement, d'un premier jet. Je ne suis pas revenue sur les mots, sur les phrases. Donc, quelque chose qui est sorti de moi, qui s'est extirpé de moi, voilà, comme un jet, sans que j'y revienne. Donc, d'ailleurs, une fois écrites, les nouvelles, je ne les ai pas relues. Je les ai relues lorsque vous m'avez invitée, mais depuis, je ne les avais pas relues.
Les aviez-vous oubliées ?
Je ne les avais pas oubliées, mais je ne les avais pas oubliées dans leur contenu intrinsèque, en fait, hein, mais en soi, dans les mots eux-mêmes, tels qu'ils ont été couchés, ou la prose, ou effectivement, je me suis surprise moi-même. Et j'avais un petit peu peur, par ailleurs, en rouvrant le recueil, je me suis posé la question, à me dire, mais alors comment tu écris ? Finalement, c'était comme si je revenais à moi-même et que je me visualisais, enfin, en tout cas, que je m'analysais moi-même en tant qu'auteur parce que je n'étais pas revenue sur l'écriture.
Alors, vous dites et vous reprécisez, là, vous confirmez que, à vous entendre, l'écriture de ces nouvelles est arrivée spontanément.
Tout à fait.
Néanmoins, si je peux me permettre, on sent qu'il y a un sens des formules et il y a un certain travail au niveau des phrases. Par exemple, pour caractériser le contexte de la première nouvelle, à un moment, pour décrire un petit peu ce qui se passe, vous dites « un lyrisme vampirique au milieu de nulle part, dans un monde sans heure et où rien n'était écrit ». Ce sont des formules, j'allais dire presque choc, mais bien travaillées, et puis qui, rassemblées de cette manière-là, résume bien, synthétise bien le contexte dans lequel évolue Henri.
Tout à fait. Alors, je viens du côté de mon papa, d'une famille paternelle où chaque membre de la famille était très attaché à ce que on écrive bien et avec de belles formules. J'avais un arrière-grand-père qui était brillant, André. Que nous appelions bon papa, et qui ne supportait pas, alors entre guillemets, bien sûr, la médiocrité. Alors, il fallait être un tant soit peu cultivé, se former, avoir la tête bien faite, avoir le sens de la formule, et ne pas trop s'oublier dans la concordance des temps. Mon père s'est très bien occupé aussi de ma formation et assez rapidement, en tout cas en étant enfant, alors je pouvais jouer comme n'importe quel autre enfant, mais il s'agissait que je ne fasse pas une seule faute et que je connaisse parfaitement ma conjugaison.
Alors nous allons passer, si vous le voulez bien, à la nouvelle suivante qui s'appelle donc « Les champs d'orge et des trains vers ailleurs, imaginer fuir ». Alors là, on rentre dans un autre contexte, pour le coup. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer le contexte ?
Le contexte, alors il est venu, cette nouvelle, notre secrétaire perpétuel de l'Académie des livres que vous connaissez bien, lors d'une soirée, il y a une année à peu près, m'appelle et me dit « Écoute, j'aimerais bien que tu écrives un petit texte sur la situation politique et ce qui se passe aujourd'hui. En Israël et sur le conflit israélo-palestinien. Je pense que ça lui tenait à cœur. Et puis, ma foi, elle me l'a demandé. avec un petit peu d'insistance et je me suis prise au jeu et pareil, c'était, je me rappelle, c'était un dimanche soir, je rentrais du cinéma et j'ai pris mon stylo et les mots sont venus, mais t'es pas aussi longue et pas aussi travaillée. Je lui ai passé le texte et puis finalement ils ont jugé que le sujet était un petit peu trop polémique et qui pouvait heurter la sensibilité de quelques personnes qui se trouveraient à l'événement. Et donc, on l'a mis sur le côté. J'avais gardé ce petit texte. Je trouvais dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Et je l'ai repris en écriture, mais par rapport à un ressenti profond que j'avais sur l'actualité qui est... Je suis très attachée à la notion d'ajustement, cette notion de balance qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Henri. Lorsque l'inspecteur se pose la question, notamment savoir si le monde ne reposerait pas finalement sur une balance ajustée. Moi, je suis très attachée à ça. C'est peut-être pour ça que j'ai fait naturellement des études de droit, voilà. Certainement.
Alors, nous laisserons les lecteurs découvrir dans le détail cette nouvelle. Il y a une nouvelle dont nous avons parlé tout à l'heure au sujet d'une dystopie sur l'âge d'eau qui est une nouvelle relative à « Et si une pénurie d'eau généralisée sur le monde survenait, qu'est-ce qui se passerait ?» Donc là, vous avez une très belle description de « Au-delà de la pénurie, au-delà des conséquences induite par cette pénurie qui inclut notamment une sorte de confinement.
C'est ça.
Vous mettez en avant un certain nombre de conséquences qui peuvent arriver, du type le déni, de type tyrannie bienveillante. Vous abordez les notions d'ordre et de monde totalitaire. Donc, à partir de cette idée, il y a beaucoup de choses qui sont balayées. Et je vous propose d'écouter maintenant Véronique Sanson qui va nous parler rien que de l'eau.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Les échappées imaginaires, c'est le livre qu'est venu nous présenter Stéphanie Lima, paru cette année, paru aux éditions Terra Rossa en 2024. C'est bien ça.
C'est ça.
Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio, haut. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'eau.
Oui, l'eau pour ce qu'elle signifie donc dans le cadre de nos besoins, primaires, primitifs, hein, et sa valeur spirituelle, hautement spirituelle. On est toujours, pour moi, c'est l'élément qui représente le mieux ce cheminement entre besoin matériel, la physique du corps, la machine du corps, et la spiritualité, l'esprit et l'âme. Je me suis fortement intéressée aussi à mener sur ces chemins-là, d'ailleurs, par mon père. Je parle beaucoup de mon père, mais mon père s'intéresse beaucoup à ces questions-là, notamment sur les œuvres de Bienveniste sur la mémoire de l'eau. Autant avant, ça pouvait paraître saugrenu, aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout, puisque beaucoup de scientifiques s'interrogent par ailleurs. On évolue énormément au niveau scientifique sur ces questions-là. Et donc, l'eau, pour moi, représente à une très, très haute valeur spirituelle. Et c'est le sens de cette nouvelle, d'ailleurs.
Alors, le thème de l'eau est important dans ce recueil. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont très importants et qui sont analysés, décortiqués, de votre point de vue. Alors, il y a notamment le temps. Je dis aussi pour les lecteurs qu'il y a le thème de l'œuf, et là nous allons revenir en détail sur le sujet, et le thème du débarras. Alors, a priori, ces sujets pourraient peut-être, au moins pour l'œuf et le débarras, paraître anodins, mais pas du tout. Alors, venons-en d'abord au temps. C'est un livre qui parle du rapport au temps, et c'est un livre qui parle du rapport au temps par le biais de la manière dont on vit le temps dans l'entreprise.
Oui.
Et à ce titre-là, cette première nouvelle avec Henri est quand même une très bonne satire du monde de l'entreprise.
Oui.
Alors, pour le temps, vous donnez des exemples, et vous dites que finalement Henri, c'est quelqu'un qui, par rapport à la notion de temps, j'allais dire, prend son temps, qu'il aurait plutôt tendance à être retardataire. Et je vais lire quelques phrases des propos d'Henri et de description d'Henri. Il voulait avoir le temps, celui de devancer les aiguilles mues par le balancier et contrarier l'œuvre subreptice sans épanchement ininterrompu. Parce que le temps défile à l'infini et nul ne songe jamais à décréter qu'il soit interrompu, le gouffre du temps perdu qui passait la frontière de l'horizon pour certainement guérir, périr dans un gouffre. Ah, le gouffre du temps perdu. C'est la condition de Henri, c'est-à-dire il est un peu détaché de la notion de temps par rapport à ses contemporains.
Tout à fait. C'est une personne qui cherche à s'extirper des contraintes, et une des premières contraintes, c'est le temps, puisque sommes tous régis par l'horloge, et comme on dit dans l'entreprise, timer. Doit arriver à telle heure au travail, à telle heure on prend sa pause, à telle heure on déjeune, à telle heure on reprend, à telle heure une nouvelle pause, et ce depuis l'enfance et l'école. Et effectivement, pour Henri, il le vit vraiment comme un enchaînement, C'est un enchaînement au sens de enchaîner par des chaînes et une contrainte et c'est ce besoin et cette envie d'élévation et quelque part de briser ces chaînes.
Alors par rapport au temps et par rapport à l'entreprise, Henri se trouve en situation d'être dans une entreprise et dans cette entreprise on lui parle d'une charte du temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est cette charte du temps? Parce que c'est intéressant d'analyser cette charte du temps par rapport à la satire que vous faites, que vous esquissez de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Donc Henri se retrouve dans cette entreprise qui est ubuesque, entouré d'un surréalisme fou dans lequel il ne se retrouve pas et pour lequel il ne parvient pas à faire des liens de réalité et met des ronces donc qui est une des protagonistes. D'ailleurs j'ai emprunté le prénom l'ancienne comptable d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé et qui effectivement me contraignait beaucoup, je trouvais à l'époque, et moi qui n'aime pas trop les contraintes, donc j'en ai fait un personnage de ce livre. Et effectivement, comme je vous ai dit, c'est vraiment issu d'une expérience professionnelle qui a été qui s'est pas très bien terminée. Mais finalement qui a été une bonne expérience de vie et donc arriver là-dedans, enfin en tout cas dans cette boîte, dans cette entreprise, des personnes qui avaient fait un école supérieure de commerce et moi qui étais très attachée à un enseignement universitaire et de doctrine et d'empirisme et très attachée à l'étude et à cette forme à l'intellectualisme quelque part, voilà, vraiment. Et je me retrouvais avec des personnes issues d'écoles de commerce et qui faisaient des chartes pour tout et n'importe quoi. Et effectivement, je me sentais, c'était comme si je tombais, c'était un monde que je ne connaissais pas, un monde comme si je m'étais éveillée et réveillée dans un monde totalitaire. Je le vivais vraiment très mal, certainement parce que je ne suis pas faite pour ça. Et ce livre est vraiment issu de cette expérience profonde. Alors peut-être que c'est un livre psychothérapie, c'est certainement le cas. Et donc cette manie des chartes, cadrer absolument tout, oui. Faire des chartes.
Les procédures, etc.
Les
etc.
procédures
on,
et
on,
les process.
On sent effectivement qu'il y a du vécu. Alors juste pour donner un aperçu à nos auditeurs, au sujet de la charte du temps. Nous avons adopté notre charte du temps et voté sa liberté. Il s'écoule ainsi comme il veut, à son rythme. Il peut s'absenter, se cacher, s'éterniser. Il fait ce qu'il lui chante. Le temps reste libre et nous nous en accommodons. Et plus loin, vous dites, maintenant que nous respectons la charte, nous assumons de nous perdre dans un temps dispersé qui se fait la malle dès qu'on l'approche de trop près, mais qui ne cesse de nous courir après, quand bien même on voudrait s'en débarrasser, c'est inextricable.
Oui, voilà, donc ça c'est pour me moquer avec poésie. Et si, effectivement, à l'époque, j'avais pu, en tout cas, si j'avais su dire ce texte avec ces mots-là, je pense que je l'aurais affiché sur un des murs de l'entreprise dans laquelle je vivais mal.
Et je pense que ça aurait eu des effets. Alors passons au thème suivant, c'est l'œuf. Alors, j'ai été surpris au début en lisant votre livre et première page, on parle de l'œuf, deuxième de l'œuf, etc., etc. Alors je cite, et si tu étais tout simplement un œuf, il n'avait rien d'un œuf, pas du tout. La couleur des murs, ces coquilles d'œufs, quel jaune épouvantable, on dirait un œuf. Les idées s'embrouillaient à nouveau dans l'esprit d'Henri, qui pour le coup commençait à se liquéfier comme un jaune d'œuf. Alors qu'est-ce que c'est que cette référence à l'œuf comme un leitmotiv durant cette nouvelle?
Qui de l'œuf ou de la poule? Très précisément, À ce niveau-là de la nouvelle, Henri est entre deux mondes. Hein. On ne peut pas tout révéler, mais il fait l'expérience de la mort imminente et qui de l'œuf ou de la poule, ça me paraissait assez approprié.
Voilà. Et alors, au-delà de ça, j'ai fait quelques petites recherches par rapport à la signification, au symbolisme de l'œuf. Et il y a beaucoup de livres. La littérature fait souvent référence à l'œuf. Dans les mythes, c'est l'univers en gestation. Dans les religions, c'est le renouveau, la fertilité ou la résurrection, comme Pâques. Et dans les traditions culturelles, on lui attribue chance et prospérité. Et dans le domaine de la philosophie et de la spiritualité, il évoque la transformation intérieure que vous avez évoquée en soupçonnant depuis le début. Et finalement, quand on tombe sur ses œufs au fur et à mesure des lignes, effectivement, on se pose la question, on essaye de faire des rapprochements et on en vient à adhérer finalement à ce rapprochement et à ce positionnement de l'œuf. C'était quelque chose de prémédité ?
Oui, c'était effectivement, il y a le côté pas sarcastique, mais plutôt humoristique. Donc dans ma réponse précédente sur le qui de l'œuf ou de la poule, qui est un peu question boucle, la question on tourne en rond, mais effectivement le fait qu'Henri soit marche entre deux mondes à ce moment précis de la nouvelle, la volonté c'était effectivement de se rapprocher alors plus de la thématique de l'univers en gestation, l'univers intérieur l'univers en gestation dans le sens de est-ce qu'Henri s'est définitivement détaché de la machine du corps ou pas. Effectivement, alors j'ai pas voulu aller sur ce terrain-là avant que vous ne me posiez la question, de peur que nous volions trop haut. Mais effectivement, oui, c'est la volonté était là. Et j'avais en tête un tableau de Dali, qui est un peintre qu'on voit moins, mais que j'ai beaucoup aimé adolescente. On trouvera la référence au Montremol. Les œufs étaient aussi très présents dans ces peintures. Et pour moi, au-delà du fantasque, Dali était un être, je pense, beaucoup plus profond que ce qui paraissait.
Et alors, un autre thème important dans cet ouvrage, c'est le thème du débarras. Alors, le thème du débarras, c'est un thème aussi qui a été beaucoup utilisé en littérature. Alors, pourquoi cette référence au débarras? Alors, je cite quelques petites phrases. Non, ici, rien ne se répare, rien ne se remplace. On comprend sous-entendu la lecture qu'on met tout au débarras. Ce qui est fait, on ne revient pas dessus. Ce qui a fonctionné le jour où ça ne fonctionne plus, hop, au débarras, le débarras est plein d'ailleurs.
Tout à fait. Alors là, on est plutôt sur quelque chose qui a plus trait à la psycho, alors pas forcément freudienne, hein, mais plus la psychologie, en tout cas la construction de l'être lui-même, hein, si tant est qu'on puisse le comparer à une maison, à une habitation, et le débarras, effectivement, pour moi, à ce niveau-là de lecture, en tout cas à ce niveau-là de la nouvelle, c'était précisément en parler comme le détachement au monde, le débarras étant certainement la pièce cachée, la petite pièce, la dernière pièce de la construction d'Henri, qui reste à débarrasser ou pas pour définitivement s'extirper donc de la matérialité, puisque on ne sait pas à ce moment-là, en tout cas on n'y est pas arrivé, s'il va revenir à la vie ou pas.
Alors, il y a cet aspect-là, par rapport de la relation de Henri à cette notion de débarras, mais il y a aussi la relation par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on veut cacher, tout ce que l'on veut, dont on veut se débarrasser, ce que l'on ne veut pas traiter aussi.
Tout à fait. Donc, il y a l'aspect, dans l'écriture de cette nouvelle, il y a l'aspect très axé sur Henri lui-même, hein, c'est-à-dire ce personnage-là qui, en soi, pourrait, pourrait se suffire dans un environnement qui lui est totalement détaché. Ce que j'ai essayé, effectivement, c'est de bien cerner ce détachement pour que, d'une part, on puisse voir la personne d'Henri telle qu'elle est et telle qu'elle évolue dans ce cheminement qui est très particulier et qui est très isolé. Et effectivement, la matérialité violente parfois donc d'une entreprise, puisqu'on y passe clairement beaucoup de temps dans le monde du travail, quasiment la plupart de son temps, effectivement. Ce qu'on va mettre sur le côté, ce qu'on va ranger, ce qu'on va ressortir ou pas. Il y a l'allégorie, effectivement, de des choses matérielles de l'entreprise et qui confère souvent, en tout cas pour moi, peut-être certainement pas pour les autres personnes, mais à une part d'absurde.
Alors nous laisserons les auditeurs découvrir ce débarras. Je voulais signaler aussi que cette notion de débarras, on la trouve dans l'œuvre de Annie Arnaud, qui parle souvent des lieux intimes et modestes qui contiennent les restes du passé, Proust naturellement, et Kafka, c'est même pas besoin d'en parler. Alors il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, la normalité, la folie, la présence et l'existence, la mort, mais nos auditeurs, je pense, auront la curiosité d'aller voir tout ça en détail. Stéphanie Lima, merci beaucoup d'être venue à Parole d'auteur. Merci pour votre imagination débordante qui va sans doute nous apprendre à cultiver la nôtre. Donc, nous attendons la suite des échappées imaginaires que l'on peut prévoir à quel horizon ?
Je pense horizon octobre-novembre prochain. Peut-être avant, si l'écriture est aussi rapide que la première. Donc, certaines nouvelles sont déjà écrites. Ce que je peux dire, c'est qu'on revient sur Terre.
Nous sommes en attente. Je rappelle votre ouvrage « Les échappées imaginaires » paru en 2024 aux éditions Terra Rosa et qui a reçu le premier prix de la catégorie nouvelle de l'Académie des livres de Toulouse en 2024. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Jonathan à la technique et bonne lecture à tous.